À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir. Le podcast.
Dans l'épisode précédent, le témoignage de Florian Fizel m'a permis de comprendre pourquoi nous croyons généralement dur comme fer que la croissance est nécessaire et positive pour notre société et pour l'humanité tout entière. Être soudain confronté et de façon radicale aux effets néfastes de cette croissance est donc profondément perturbant, car cela remet en cause notre foi en un avenir qui serait nécessairement meilleur pour nos enfants. Je m'interroge donc sur une nouvelle notion, apparue récemment dans le débat public, celle de décroissance. Que signifie ce terme ? Est-ce la fin du progrès humain, le retour à la bougie, le signe de l'effondrement ? La décroissance est-elle nécessaire pour nous sauver du chaos climatique ? Et peut-on décroître sans régresser ? Pour évoquer tous ces sujets, j'ai pris rendez-vous avec Timothée Parikh, aussi connu sous le nom de code de l'économiste à moustache. Enseignant-chercheur à l'Université de Lund, en Suède, il a consacré sa thèse de doctorat à la décroissance et en a tiré un livre, presque un programme, « Ralentir ou périr ». Je compte donc sur lui pour me donner une définition précise de cette décroissance que beaucoup évoquent sans l'expliciter.
La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci de la qualité de vie. Alors bien sûr, là, ça fait une définition qui est un petit peu difficile à retenir. C'est pour ça que je l'ai divisé en 5 morceaux. Le premier morceau, c'est vraiment la décroissance comme phénomène, une réduction de la production et de la consommation. Là, on comprend bien, c'est vraiment le contraire de la croissance. La croissance étant qu'on produit et on consomme plus. La décroissance, c'est quand on produit et on consomme moins. Et à cela, il faut ajouter vraiment 4 éléments qui font que la décroissance est un concept particulier. Un élément lié à la soutenabilité, un autre lié à la justice, un autre sur la démocratie et un autre sur le bien-être. Donc c'est pour ça que moi j'y ajoute ces 4 phrases. Une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, soutenabilité, planifier démocratiquement, démocratie, dans un esprit de justice sociale, justice, et dans le souci de la qualité de vie, bien-être.
Wow, ça commence fort. Henri, prépare-moi une aspirine, je sens que je vais devoir m'accrocher. Retenons déjà que le concept de décroissance ne recouvre pas seulement des notions économiques. Il est bien plus large.
La macroéconomie, elle est très simpliste. On a cette espèce d'indicateur, le PIB, qui monte et qui descend et qui ne nous dit rien sur l'état des écosystèmes, sur la distribution de la richesse, sur la gestion plus ou moins démocratique des processus de décision et, encore plus important, sur la qualité de vie, c'est-à-dire le produit final, normalement l'objectif de toute économie. Donc il faut prendre une certaine distance par rapport à la macroéconomie pour pouvoir définir la décroissance comme cette espèce de grande transition sociale et écologique où il va falloir, à chaque fois qu'on fait quelque chose, regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'empreinte écologique, de la gestion démocratique, de la distribution des richesses et de la qualité de vie. C'est, on pourrait dire, en fait, les 4 axes d'un nouveau compas pour organiser l'économie.
Soit. On peut donc considérer la décroissance comme un concept qui vise à structurer différemment la prise de décision dans les activités humaines. Il ne s'agit pas seulement de réduire la production et la consommation, il faut accorder tout autant d'importance à la manière dont les décisions sont prises et à leurs impacts sociétaux et environnementaux. Dit comme ça, ça paraît plutôt sensé. Alors, je me demande pourquoi parler de décroissance suscite autant d'opposition et de réactions épidermiques.
Moi, j'aurais envie de dire que c'est quand même la force du concept. C'est justement de créer un désaccord. Parce que si, par exemple, on parlait d'économie verte, d'économie du bien-être, d'économie du bien commun, d'économie positive, de développement durable, tous ces concepts, ils mettent tout le monde d'accord direct. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système qu'on a, il ne fonctionne pas, dans le sens où il détruit la planète.
Actuellement, ce qu'on appelle croissance, c'est essentiellement de détruire un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché. Ça, c'est littéralement parlant de la croissance. Si on le fait avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie nucléaire ou avec de l'énergie éolienne, ça ne change rien. À la fin, on a effectivement détruit une forêt pour construire un espace bétonné. À la fin, la vie est morte.
Donc, si on part du principe qu'il faut changer le système, il faut qu'on se mette en désaccord. Donc, on a besoin de concepts clivants dans le sens qui viennent identifier les points de friction. Et la décroissance fait ça très bien.
Il y a le choix de la décroissance.
Des 5 candidats à la primaire écologiste, vous êtes la seule à revendiquer la décroissance.
Quand le terme décroissance est arrivé dans le débat public, l'idée c'était d'avoir un mot au but pour qu'on s'interroge tous sur le sens de la croissance. Parce que si la croissance n'a aucun sens du PIB au sens de l'empreinte écologique ou de la justice sociale, la décroissance n'a pas beaucoup plus de sens.
Le mot décroissance, il est mal choisi, parce qu'il est tributaire des indicateurs de l'ancien monde.
Un modèle de décroissance, c'est un modèle de décroissance aussi de notre modèle social. Et je crois comme vous que ce ne serait pas une réponse au défi qui est le nôtre.
La décroissance, ce n'est pas les Amish ni la lampe à huile. La décroissance, c'est d'abord une issue de secours, mais aussi un projet de société positif.
Ma priorité, je le dis, ça va être de produire, et de produire davantage, et de produire mieux, et de produire en France. Je suis contre la décroissance.
C'est complètement ubuesque. Je veux dire, bien sûr qu'il faut décroître. C'est une évidence.
Tout notre modèle de société est dans une course folle à l'augmentation de la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation du PIB.
Le choix de décroissance n'est pas une réponse au défi climatique non plus.
Si on ne décroît pas, évidemment qu'on va à la catastrophe.
On avait érigé la croissance économique comme quelque chose d'universel, vraiment, de post-idéologique, un phénomène naturel qu'on pouvait observer dans les économies. Alors qu'en fait, quand on parle de décroissance, on se rend compte soudainement que la croissance économique est un phénomène idéologique, est un phénomène qui ne bénéficie pas tout le monde au même degré, est un phénomène qui implique de prendre certaines décisions, de choisir de produire certaines choses et donc de sacrifier d'autres ressources en chemin. Donc moi, j'aime beaucoup cet aspect clivant parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir une discussion qui est beaucoup plus riche en termes de transformation radicale du système.
Voilà une affirmation qui me paraît très éclairante. Pour changer le système, eh bien, il faut commencer par être en désaccord. Autrement dit, il faut proposer, s'opposer, débattre. Car c'est de la confrontation d'idées et de stratégies que pourra sortir un réel changement structurel. Autrement, et on l'a vu dans la vie politique française depuis au moins 30 ans, c'est le règne du consensus mou. Les désaccords ne sont que marginaux et le fond du système n'est jamais remis en cause.
Après, pourquoi est-ce que les gens ont peur de la décroissance? Parce que si on a peur de la décroissance, c'est qu'on est d'une certaine manière rassuré par la croissance économique. Je ne comprends pas en quoi les gens seraient rassurés par cette croissance économique si elle ne vient pas créer les emplois qui ont du sens et qui nous permettent de produire les choses dont nous avons besoin, si elle enrichit principalement ceux qui sont déjà riches, si elle détruit les écosystèmes et si au final elle n'augmente pas notre bien-être. Donc ce qu'on appelle croissance économique, en fait, avec cette espèce d'imaginaire de progrès autour, la croissance comme étant un progrès social, écologique pour tous, en fait, c'est plutôt une mesure aujourd'hui de performance du capitalisme, une mesure de la dégradation écologique, une mesure de l'augmentation des inégalités. Moi, je fais souvent l'analogie avec un régime.
Dites oui à la vie que vous aimez, perdez le poids que vous voulez.
Alors rendez-vous sur régimebox.fr.
Avec Régimebox, j'ai perdu 20 kilos en 4 mois.
Si vous aussi voulez perdre du poids, rendez-vous sur commejaime.fr.
Si vous devez perdre du poids, est-ce que ça fait peur de parler de perdre du poids parce que c'est négatif? Non, perdre du poids, c'est positif parce qu'on va vers l'objectif de la pleine santé. Eh bien, perdre de la production et de la consommation aujourd'hui dans le contexte de pays qui sont biophysiquement obèses, eh bien, c'est quelque chose de positif parce que ça nous amène vers la soutenabilité.
Mais dans ce cas, pourquoi tout le monde ne se précipite pas dans la rue pour réclamer de la décroissance?
Quand on demande aux gens ce que vous êtes pour ou contre la croissance, les gens vont dire « oui, je suis pour la croissance ». Mais si on vient leur demander des choses beaucoup plus spécifiques, par exemple, pensez-vous que les entreprises devraient maximiser leurs profits, même si parfois ça veut dire sacrifier le bien-être des travailleurs et des consommateurs et la soutenabilité? La plupart des gens diront « non ». On ne devrait pas faire ça. Si on leur demande, pensez-vous que le devoir d'un gouvernement est de maximiser son PIB, parfois aux dépens de la santé sociale et de la justice écologique? Les gens vont dire non, c'est pas possible. Et même si on leur pose des questions sur leur propre comportement, est-ce que vous voulez augmenter votre pouvoir d'achat, même si ça veut dire que vous allez avoir moins de temps libre et plus de travail? Et là, les gens ne vont pas systématiquement répondre oui. Le bien-être social et la santé écologique passent avant les objectifs financiers. Même si ça va à l'encontre, on va dire, de certains imaginaires qui ont été développés depuis quelques décennies, l'imaginaire de la croissance n'est pas si vieux, hein. Le PIB développé dans les années 30, devenu dominant, hégémonique dans les années 50, bon, bah, ça me paraît pas quand même si difficile à détricoter.
Pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Timothée. Parce que l'imaginaire dont il parle ne se limite pas au PIB et à la croissance, qui en sont simplement des produits et non des paramètres. Cet imaginaire, eh ben c'est celui de l'époque moderne, et ça fait 3 siècles qu'il se déploie. Il est donc bien enraciné, et ça ne va pas être si évident que cela de le détricoter.
La décroissance, ce n'est qu'une transition. J'avais fait l'analogie avec le régime. Perdre du poids dans un régime, bon, on ne le fait pas jusqu'à peser 0 kg, et ça a du sens. Donc, on ne décroît pas une économie jusqu'à ce qu'elle ne produise et consomme rien. Ce n'aurait aucun sens. Donc, moi, dans ma définition, j'ajoute 5 autres points. Et je différencie ça en 2 phases. Vraiment, il y a la transition qu'on peut appeler décroissance et la destination qu'on peut appeler post-croissance. Alors, je repars de ma définition et j'y ajoute 5 points. Donc, on se souvient, la décroissance, réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci de la qualité de vie pour aller vers une économie stationnaire en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble, où les richesses sont équitablement partagées, qui puissent prospérer sans croissance.
Ah, merci Timothée. Alors tu vois, je m'y vois déjà là. Dans ce paradis d'une économie stationnaire qui n'a plus besoin de détruire la planète pour creuser les inégalités en même temps que notre tombeau collectif. Mais concrètement, hein, comment on y va?
Oui, c'était le titre d'un ouvrage de l'économiste britannique Tim Jackson en 2009, qui a été traduit en français en 2017, « Prospérité sans croissance ». Et ça nous permet vraiment de faire la différence entre ce qu'il faut faire pendant la transition. Donc si on a une économie qui est biophysiquement obèse, comme c'est le cas de la France, il va falloir produire et consommer moins pour l'amener vers un niveau où cette économie puisse être stationnaire, c'est-à-dire un niveau où elle puisse fonctionner en harmonie avec la nature, sans dépasser les limites planétaires, qui puisse prospérer sans croissance.
Et que répondre à ceux qui objectent que la croissance économique est indispensable pour financer les investissements rendus nécessaires par le changement climatique?
Je vais peut-être en choquer certains, parce que ça commence déjà par dire que nous n'avons pas besoin de la croissance pour financer les services publics. On pourrait, et là je vous donne un exemple radical, parce que souvent on parle de TVA. La TVA, c'est à peu près la moitié du financement de l'État en France, et les gens disent, bon bah, moins de production et de consommation, moins de TVA, et donc moins de revenus pour l'État. Mais nous pourrions supprimer la TVA et juste financer l'État d'une manière différente. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous lisez Capital Idéologie, Thomas Piketty, voilà, il propose de supprimer la TVA et d'avoir juste une double taxe sur la propriété et sur les revenus qui permettrait de financer exactement la même chose, même beaucoup plus, dans son modèle de socialisme participatif. Et son modèle, à lui, serait beaucoup plus résilient, il aurait beaucoup plus de chances de pouvoir prospérer sans croissance que la manière dont on vient financer l'État aujourd'hui. Donc là, vous proposez un changement en fait où la majorité des gens vont se retrouver gagnants. Donc si vous l'expliquez bien et si ce changement peut se discuter dans un forum démocratique où on prend le temps de bien comprendre un petit peu façon convention citoyenne pour le climat, va y avoir 2-3 capitalistes qui vont rouspéter et les milliardaires, les millionnaires vont dire « oui, c'est pas juste » ou quoi. Mais au final, vous vous retrouvez avec, hein, si on organise un référendum voilà, d'initiative citoyenne, on va se retrouver avec un 98% pour. Et pour moi, ça, c'est les meilleures institutions disponibles pour prendre des décisions qui sont démocratiques.
Timothée a raison. Je suis perturbé par sa proposition. Tous les millionnaires ne sont pas d'affreux rentiers qui méritent d'être taxés au motif qu'ils ont réussi à acheter un appartement à Paris. Je n'ai pas lu Piketty. Mais je retiens qu'une proposition comme celle-ci ne peut pas être prise indépendamment d'une refonte complète de la fiscalité française. Taxer la propriété, pourquoi pas? Mais la propriété de quoi au juste? Immobilière, capitalistique? Quand on est propriétaire d'une voiture, on est taxé aussi? Et quid de la refonte de l'impôt sur le revenu, qui n'est aujourd'hui payé que par moins de 50% des ménages? Deux choses, en tout cas, me paraissent certaines. D'abord, et Timothée le dit, ce genre de transformation radicale doit être discuté en profondeur et débattu par l'ensemble des citoyens, donc pas par une poignée de députés en séance de nuit à l'Assemblée nationale. Et si une telle réforme devient politique et dogmatique, elle créera en fait plus de fractures sociales qu'elle ne résoudra de problèmes. Ensuite, bien ça ne peut pas se faire sans coordination avec les pays voisins, sous peine de voir les perdants de la réforme se délocaliser en Belgique ou en Suisse ou au Luxembourg. Cibler les riches me rappelle la manière dont les protestants français ont été obligés de quitter le royaume après l'abolition de l'édit de Nantes. Résultat, ils sont partis faire prospérer les économies des pays voisins, et la France a perdu beaucoup dans la manœuvre. Pour qu'une nouvelle fiscalité fonctionne, il faut qu'elle mobilise toutes les catégories sociales dans une logique de contribution juste. Et sinon, on aura comme d'habitude d'un côté les riches qui savent optimiser, de l'autre les assistés qu'on regarde de travers, et au milieu, ceux qui ont toujours l'impression de casquer pour tout le monde.
C'est un peu le bon sens, moi ça me paraît un petit peu bizarre, cette logique selon laquelle il faudrait produire aujourd'hui énormément de publicité dont on n'a pas besoin, payer énormément d'ingénieurs pour faire de l'obsolescence programmée, vendre plein de 4x4 pour récolter des petites miettes à travers la TVA qu'on puisse ensuite investir pour fabriquer des éoliennes et pouvoir soigner les gens qui souffrent de maladies liées à la pollution de l'air.
Mais c'est complètement crétin.
Enfin, c'est un système, au bout d'un moment, ça va coincer.
C'est sûr que présenté comme ça, notre modèle paraît absurde. Mais n'est-on pas ici dans une vision socialiste tout aussi idéologique que la vision néolibérale que dénonçait Timothée tout à l'heure?
Je pense qu'il faut absolument qu'on sorte de cette dualité du noir et blanc du capitalisme versus communisme. Si on regarde les types de capitalisme, il y en a plein. Et les types de communisme, il y en a plein aussi. Inventer l'économie du futur, c'est pas un choix multiple où il y a 3 ou 4 cases. C'est un défi d'architecture et il faut aujourd'hui qu'on éduque notre désir, qu'on muscle un petit peu notre imaginaire pour arriver justement à créer un nouveau système et peut y en avoir une infinité.
Ce système-là admet une infinité de solutions.
Comment trouver des solutions à mes problèmes?
Certains peuvent croire à un dieu ou d'autres énergies, à l'univers.
On va décomposer comment on va résoudre un système d'équations avec les matrices.
J'ai pas le choix de tout ce que j'affronte. Par contre,
le choix du 24 avril,
j'aurai toujours le choix,
est aussi un choix de civilisation,
de l'état d'esprit que j'adopte.
Trouver des solutions originales à ces problèmes.
Quelle action est-ce que je peux faire pour aller dans le bon sens?
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
Vous avez besoin de résoudre un problème, posez-le sur papier et vous allez vous coucher avec ça.
Pour pouvoir trouver la solution de mon système.
Voilà pourquoi le concept de planification écologique qui est au cœur de notre programme est un concept efficace. Ce qui n'est pas efficace, c'est le marché.
Toute économie est fondamentalement planifiée. C'est vrai que dans le sens que dans toute économie, tout système économique, qu'il soit tribal, socialiste, anarchiste, capitaliste, des décisions sont prises pour décider quoi produire, comment le produire et comment le distribuer. Dans un système capitaliste, comme aujourd'hui, ces décisions sont prises principalement par ceux qui possèdent les actionnaires et qui contrôlent les gestionnaires des entreprises privées, souvent à but lucratif. La production aujourd'hui dans un système planifié capitaliste en France est une planification extrêmement hiérarchique, où, par exemple, certaines décisions échappent complètement non seulement à l'État, mais aux consommateurs. Par exemple, aujourd'hui, nous aurions tous intérêt à réduire la production d'énergie fossile. Mais vu que ces moyens de production sont contrôlés par des corporations, des multinationales surpuissantes, avec une puissance de lobbying importante, elles décident de continuer à faire ce qui va dans leur intérêt, de s'enrichir. D'ailleurs, les dividendes de ces entreprises ont atteint des taux records.
Ah, désolé, Timothée. Mais je dois nuancer ta déposition. À court terme, personne ne trouve d'intérêt à arrêter de produire des énergies fossiles. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aussi bien la classe politique que nos concitoyens sont préoccupés par la perspective d'une pénurie cet hiver. Oh, bien sûr, à moyen et long terme, on sait que ces énergies mettent en danger notre avenir. Mais arrêter du jour au lendemain d'en produire et d'en fournir, ça ne marche pas. Ce serait même sans doute le chaos assuré, vu que les salariés de ces entreprises se retrouveraient sans boulot et donc sans revenus. En plus, forcer des entreprises à arrêter d'un coup leur activité, ça serait un acte autoritaire digne d'une dictature, non?
Moi, je traîne pas mal avec les décroissants, les éco-socialistes, les éco-féministes, les éco-anarchistes. Et franchement, j'ai jamais entendu parler de dictature. J'ai parcouru, j'ai lu quand même l'intégralité de la littérature décroissante. Et j'ai vraiment le spectre de la dictature verte est souvent brandi comme défense du système en place. La preuve, cette même peur de la dictature verte, elle est apparue dans les années 80 contre le développement durable, dans les années 2000 contre l'économie verte et dans les années 2020 ou même 2000 contre la décroissance. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau concept où on dit bon, il faut faire quelque chose quand même pour le climat, eh ben on va avoir ceux qui défendent un petit peu les intérêts en place. Oh, dictature verte! Encore une fois, on voit que c'est un petit peu paradoxal vu que ceux justement qui nous accusent de dictature verte sont ceux qui aujourd'hui prennent des décisions qui ne sont pas démocratiques sur notre avenir collectif.
Attention, sujet sensible. Vaut-il mieux faire confiance à la démocratie pour mettre en place les transformations radicales qui conditionnent notre avenir ou s'en remettre à un système autoritaire qui les imposera, si besoin, par la contrainte. Prenons la limitation de vitesse à 80 km/h, par exemple. Elle a suscité un tollé, alors même qu'elle était issue de la Convention citoyenne pour le climat, donc d'un processus par essence démocratique. Comment expliquer ce paradoxe ?
Pour moi, c'est vraiment à voir avec le processus. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils vont voir aux infos, « Ah, le gouvernement propose de limiter la vitesse ». Donc, ils vont voir ça, ils vont avoir peut-être une réaction instinctive. « Oh, bah dis donc, on essaie de me limiter, c'est encore moi qui vais devoir me serrer la ceinture, passer 30 minutes de plus à conduire d'ici et là, c'est pas possible, je suis contre. » Si au lieu de proposer des politiques déjà faites comme ça et les gens de leur demander oui ou non, on ouvrait des forums de délibération citoyenne où les gens peuvent venir discuter, se former, où on a accès aux experts qui sont là pour expliquer, pour chiffrer, pour répondre aux questions. Et ça, ça nous permettrait de diffuser des blocages. C'est pas des problèmes de création, c'est des problèmes de délibération où on a juste besoin d'être en groupe et de pouvoir discuter de choses très concrètes. Ils le font comment en Norvège? Et on a quoi comme études disponibles? Est-ce qu'on sait ce qui se passe si on augmente? Tac, 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 on réfléchit, on prend le temps. Et après, je pense qu'on arrive à construire un certain consensus. Ça peut être un consensus surprenant. Ça va peut-être être une réduction des limitations de vitesse. Ça va pas être 110. Ça peut être quelque chose d'autre. 114. Ça peut être, on sait pas, c'est imprévisible. Mais au moins, on peut construire peu à peu. Et ce qui est très important avec ça, c'est qu'on peut construire une espèce de vitesse de transformation. Donc, au lieu de proposer un 110 tous les ans et ça soit bloqué, et justement de créer un traumatisme taxe carbone, où là, avant qu'on en reparle, bon bah voilà, on a perdu quelques années, et ben on construit doucement, on prend le temps de délibérer, et là peut-être on se dit, ok, très bien, on essaye le 115. On se rend compte, on perd pas beaucoup de temps, les données montrent que ça réduit les émissions, et ben peut-être qu'on pourra aller plus loin, on essaye le 100. On l'essaye dans peut-être quelques territoires pilotes, on regarde, encore une fois, les gens font partie de ce processus de transformation, et à chaque fois, on essaye. On a des feedbacks, on voit ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Moi, c'est vraiment le message principal. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ma thèse l'économie politique de la décroissance, parce qu'une économie, il y a toujours des perdants et des gagnants. Et donc, si on veut pouvoir décider ensemble, il faut qu'on puisse se mettre d'accord. Ok, bon, bah là, si on ralentit un petit peu, certaines personnes vont peut-être perdre du temps, mais ça va nous permettre collectivement de gagner en soutenabilité. Et si on prend le temps d'en discuter, bah peut-être qu'on arrive à un consensus où ça vaut la peine de le faire.
Ici, ce que dit Timothée me fait penser aux travaux de Rutger Bregman, qui s'interroge sur la nature véritable de l'espèce humaine. Sommes-nous des bons samaritains ou au contraire des affreux joujoux? Le contexte dans lequel on se retrouve placé va nous orienter vers l'une ou l'autre des options. Si je suis mis dans un espace de délibération où je peux avoir le temps de me faire expliquer un sujet et où je sens que mon avis est pleinement pris en compte, je vais sans doute être plus enclin à prendre une position qui tienne compte de l'intérêt général. Mais si à l'inverse, on me donne l'impression que la décision m'est imposée et m'est étrangère, eh bien je vais d'abord réagir en fonction de mon intérêt personnel immédiat et protester vigoureusement.
Moi, j'ai toujours été choqué de la rapidité à laquelle on fait des élections en France. Deux tours, quelques semaines, bam, envoyé, c'est roulé, il n'y a même pas... Alors que si on était vraiment sérieux d'avoir une démocratie représentative, à chaque fois qu'on a des élections, on donnerait quelques semaines de congés payés à tous ceux qui veulent, on ouvrirait tous les bâtiments publics au débat, on mobiliserait tous les acteurs, les philosophes, les politologues, les sociologues, les économistes, les biologistes, les climatologues, deviendrait disponible pour pouvoir informer et discuter avec les gens, et on prendrait vraiment ces moments pour délibérer, décider de ce qu'on veut.
I have a dream.
Je pense qu'on créerait une véritable mobilisation. Et on n'aurait pas les taux d'abstention qu'on a aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, notre démocratie, elle ressemble plus à l'Eurovision qu'à autre chose. No way.
Si je résume, piloter la décroissance comme période de transition ne peut pas se faire avec nos modes de décision actuels. Pour que chacun se sente agir et non subir, eh bien il faut recréer du débat, des forums de discussion au plus près des gens et probablement de plein de façons différentes. Sacré challenge. Mais tout ça ne me dit pas comment on va pouvoir concrètement enclencher cette transition et la traduire dans les infrastructures, dans les activités économiques et dans les comportements et le quotidien de chacun.
Aujourd'hui, dans un pays comme la France, nous avons largement assez de richesses pour tous vivre très bien. Alors, il y a un économiste, Pierre Concialdi, qui a calculé, qui a estimé ce surplus national brut. Donc, il a fait des estimations en travaillant justement avec des groupes démocratiques sur des paniers de référence. Donc, c'est-à-dire demander aux gens de quoi ils ont besoin pour vivre. On leur demande de quoi ils ont besoin en termes physiques. J'ai besoin d'un vélo, j'ai besoin d'une maison avec tant de mètres carrés, talala. Ensuite, on vient mettre des prix en fonction de combien ça coûte là où ils habitent. On agrège pour savoir vraiment quel est, de combien, en fait, est-ce qu'on aurait besoin en revenu national à l'échelle du pays pour que tout le monde puisse vivre bien. Et ensuite, on peut comparer ça avec le véritable revenu national. Aujourd'hui, la différence, elle est de 40%. Donc, ça veut dire que, théoriquement, on pourrait perdre 40% de revenu national. Si on arrivait à équitablement le répartir, eh ben en fait, on pourrait tous continuer à vivre très bien. Mais là, je vais aller plus loin. Et là, on rentre vraiment dans les méandres de la science économique, et c'est ça qui est fantastique, c'est que l'argent n'est pas une source de valeur. Les trois choses que vous avez besoin pour produire des choses, c'est du temps de travail, de l'énergie et des ressources naturelles. Donc, on dit, oui, il faut trouver l'argent pour investir dans les énergies renouvelables. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il faut construire des panneaux solaires, il faut les installer, il faut les concevoir, il faut construire des éoliennes et tout ça. Donc, de quoi on a besoin pour faire ça? Avant même d'avoir de l'argent, sans penser à de l'argent, on a besoin d'avoir des métaux qui sont disponibles, on a besoin d'avoir des personnes avec des compétences qui soient prêtes à travailler pour ça. Donc, moi, aujourd'hui, ça me paraît presque contradictoire quand on me dit il faut faire croître l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faut avoir beaucoup plus de publicitaires, beaucoup de gens qui vont produire des voitures. Donc, il faut qu'on utilise beaucoup plus d'énergie, d'heures de travail et de matériaux pour pouvoir justement faire que quelque chose. Alors, quelque chose d'autre. Alors, moi, j'aurais envie de dire le contraire. Si on arrive à décroître aujourd'hui certains secteurs, on va libérer du temps de travail, on va libérer de l'énergie et on va libérer des matériaux. Et une fois qu'on les a libérés, on peut utiliser ces choses-là pour produire ces choses dont nous avons vraiment besoin.
Si je comprends bien ce que dit Timothée, le principal enjeu, ce n'est pas d'avoir l'argent, mais d'avoir les quantités physiques, les heures de travail, les matériaux, l'énergie pour transformer et assembler. Ces quantités physiques nécessaires à fabriquer des choses. Or, aujourd'hui, eh bien, ces ressources sont utilisées à d'autres fins, qui ne sont pas forcément aussi utiles pour la collectivité.
Et dans une économie qui est justement en croissance d'empreintes et où des secteurs viennent monopoliser ces ressources pour des produits qui ont une très faible empreinte bien-être, les SUV par exemple. Moi, produire des SUV aujourd'hui en pleine crise climatique, dans une économie qui est déjà en dépassement d'empreintes matérielles et carbone, qui justement essaye désespérément de construire en urgence une infrastructure d'énergie renouvelable, aujourd'hui en pleine crise climatique, eh ben voilà, on arrête de produire des SUV. On arrête de produire des publicités et on concentre nos véritables ressources, notre temps de travail, notre énergie, nos matériaux, pour ces choses dont on a besoin avec le compas, donc pour réduire l'empreinte écologique, en gardant en tête, bien sûr, la planification démocratique qui est nécessaire à partir du moment où on parle de besoin. Si on a une économie qui est organisée autour d'indicateurs financiers, pouvoir d'achat, profit, PIB, Ça, c'est assez facile, c'est simple. C'est un seul chiffre. Si ça monte, c'est bien, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de discuter. Alors que si vous voulez une économie qui soit centrée sur les besoins, sur la valeur d'usage, ça, c'est super difficile parce que les besoins sont spécifiques, les besoins changent, les besoins sont contextuels, les besoins sont politiques. Recentrer une économie sur les besoins, ça veut dire arriver à faire la différence entre ces choses aujourd'hui qui viennent mobiliser énormément de ressources pour très peu de retours en termes de qualité de vie, et d'autres choses justement qui n'arrivent pas à capter les ressources suffisantes, mais qui pourtant ont énormément de retours en termes de qualité de vie.
Enfin, j'aime bien cet exemple des SUV. Timothée met dans le mille sur le sujet des besoins. Bruno Latour posait d'ailleurs la question dans son ouvrage « Où atterrir ?» De quoi ai-je besoin pour subsister ? Aujourd'hui, la boussole économique n'est pas paramétrée pour entrer dans le détail des besoins. Or, si demain, il faut faire des arbitrages pour choisir à quelle priorité affecter les ressources disponibles, eh bien la question des besoins va nécessairement se poser. Et je ne crois pas que les indicateurs dont on dispose aujourd'hui permettent réellement de répondre à la question.
On en a parlé avant, on a besoin d'avoir les institutions démocratiques pour pouvoir prendre ces décisions. Et là, je reprends donc Éloi Laurent, dans son livre fantastique « Sortir de la croissance », il propose d'organiser une convention citoyenne sur le bien-être. Alors, qu'est-ce que ça serait ? On se souvient de la Nouvelle-Zélande qui, en 2019, a introduit les budgets bien-être. Donc là, on imagine qu'en France, aujourd'hui, on organiserait une convention citoyenne sur le bien-être, de la même manière qu'on l'a fait pour le climat, où des citoyens sélectionnés au hasard, et on peut en organiser même plusieurs en parallèle, auraient pour objectif de concevoir une alternative au PIB. Une fois qu'on a ça, on pourrait la voter en référendum où on trouve des protocoles. On fait descendre ce cadre à l'échelle des entreprises qui devront s'aligner un petit peu avec cette stratégie macroéconomique des budgets bien-être. On développe des plans de développement des municipalités et des territoires aussi axés sur ces budgets bien-être. Et donc là, d'une certaine manière, en fait, on vient réécrire complètement notre microprocesseur économique, donc la façon dont on vient mesurer la performance de notre économie à tous les niveaux.
La proposition de Timothée paraît finalement assez simple. En s'inspirant de la démarche néo-zélandaise, il s'agit de construire démocratiquement, grâce à une convention citoyenne, une nouvelle boussole de l'économie axée sur le bien-être. Ça implique de choisir collectivement de nouveaux indicateurs. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il y en a 65. Et puis de les décliner dans différents secteurs d'activité. Je me dis que si on a réussi à faire ce genre de démarche pour mettre en place la comptabilité nationale, on doit pouvoir y arriver pour mettre en place une comptabilité bien-être. Il faut juste vouloir le faire. Ce qui n'empêche pas d'utiliser les outils déjà existants pour engager la transformation des modèles et des comportements.
La première proposition vraiment du mouvement de la décroissance, limiter la publicité. Bon, ben voilà, on a la loi E20, et ben on l'applique maintenant sur les produits à haute teneur en carbone. Fini. Là, je pense là aussi, les seules personnes qui seraient contre, c'est les quelques personnes, et c'est même pas les travailleurs qui construisent des voitures, c'est les gestionnaires et les actionnaires des grandes entreprises automobiles. Donc, on se retrouverait avec une poignée de personnes qui sont très puissantes, mais dans une démocratie, on s'en fiche du pouvoir d'achat normalement. Donc, elles ont beau être très puissantes, mais bah, elles vont devoir serrer les dents et se dire que, eh bah, en pleine crise climatique, on ne devrait pas pouvoir faire de la publicité pour des vols en avion et des SUV.
Affiches dans les rues ou les transports, en bannière sur nos applications, double page dans les magazines, spot TV, spot radio, placement de produits, sponsoring.
Découvrez le nouveau SUV S-Cross, le dernier né de la gamme Suzuki 100% hybride.
SUV, trois lettres qui pèsent lourd dans nos déplacements carbonés.
La pollution de l'air est responsable actuellement en France de 48 000 décès prématurés chaque année.
Les SUV vendus sur la dernière décennie émettent en moyenne 20% de CO2 en plus que leur équivalent standard. La planète tousse. Alors, le législateur lui tend un mouchoir.
Si la loi climat est jugée ambitieuse par le gouvernement, les associations dénoncent plutôt des propositions édulcorées.
On a la loi SAS en France.
La loi SAS ? Jamais entendu parler. Bon, je descends illico aux archives. Et je découvre que cette loi, initiée par la députée écologiste Eva Sas et adoptée en 2015, prévoit que le gouvernement français remette chaque année au Parlement un rapport présentant l'évolution sur les années passées de nouveaux indicateurs de richesse tels que des indicateurs d'inégalité, de qualité de vie et de développement durable. Les principales réformes passées, en cours et à venir, doivent en principe également être examinées au regard de ces critères.
Bien sûr, c'est une loi morte, il n'y a eu que 3 rapports, toujours rendus en retard, toujours ignorés, et très souvent écrits dans une manière un petit peu greenwashing, où on se concentre un petit peu sur le positif et on reste vraiment dans l'imaginaire de la croissance verte. Donc ça, par exemple, on peut partir de cette espèce de loi et la mettre sous stéroïde. Il y en a plusieurs des lois qu'on peut mettre sous stéroïde.
I dedicate this song to my fans on steroids.
En 2016, la France est l'un des premiers pays à criminaliser l'obsolescence programmée. On a aussi une taxe sur les transactions financières. Alors, qui dit décroissance, dit suppression, démantèlement, fermeture, on l'appelle comme on veut, allez, on va dire fermeture d'une grande partie des marchés financiers qui aujourd'hui ne sert à peu près à rien.
Ah, voilà une affirmation qui va beaucoup plaire à tous les travailleurs du secteur financier. Bon, comme je la trouve un peu radicale et qu'en plus je n'y connais pas grand-chose, j'y consacrerai le prochain épisode. À ce stade, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'un économiste de la décroissance comme Timothée imagine comme rôle pour le secteur financier dans cette nouvelle économie.
Pour ceux qui ne connaissent pas une taxe sur les transactions financières, ça permet en fait de réguler certaines transactions. Par exemple, celle qu'on a en France, c'est une taxe sur le trading à haute vitesse. C'est des actes d'échange automatisés par des ordinateurs qui permettent vraiment d'exploiter la différence de prix en microsecondes. Donc, les marchés financiers, c'est devenu un petit peu, du moins, celle couverte par le trading à haute fréquence, une sorte de casino géant. Donc, dans l'idée, la loi dit, bon, bah voilà, trading à haute fréquence, c'est néfaste, ça crée de l'instabilité financière, ça enrichit les riches, ça sert à rien, donc on va le réguler. Bon, il passe cette loi, mais encore une fois, peut-être à cause des lobbies, peut-être à cause d'une méconnaissance du sujet, cette taxe ne rapporte rien parce qu'elle ne couvre, en fait, aucune des transactions existantes. Donc là encore, on met la loi sous stéroïde et on s'en sert pour fermer, c'est-à-dire pour cesser d'avoir du trading à haute fréquence. Alors là, bien sûr, ça ouvre plein de complications parce que les marchés financiers sont des marchés globaux. Mais bon, donc il faudra bien sûr coordonner ça avec l'autorité européenne des marchés et peut-être bien d'autres. Mais au moins, il faudrait commencer avec l'objectif de le faire. Pareil, on a le droit avec l'autorité européenne des marchés de déclarer l'illégalité de certains produits financiers. Donc là, c'est ce grand processus en fait de triage, de discernement, où on se dit, bon bah, il va falloir être beaucoup plus actif et arriver à ralentir certaines parties de l'économie pour justement laisser grandir d'autres parties qui sont aujourd'hui étouffées. Les marchés financiers aujourd'hui, ils agissent comme une sorte de gravité monétaire, une pesanteur monétaire. C'est-à-dire qu'ils attirent l'argent. Donc, vous avez un petit peu d'épargne, vous dégagez un surplus à l'échelle d'une municipalité. On pourrait très bien l'investir dans des coopératives à but non lucratif, on pourrait très bien l'investir dans Wikipédia, ou on pourrait l'investir dans les Restos du Cœur. Mais quand même, si on peut l'investir dans les produits financiers spéculatifs qui nous permettent d'avoir des retours de 5 à 10%, c'est quand même plus intéressant. Donc il faut pouvoir annuler cette option qui est anormale, c'est-à-dire que ces taux d'enrichissement sont anormalement rapides, pour pouvoir faire en sorte de redonner une certaine compétitivité économique au reste de l'économie, qui, encore une fois, j'en ai parlé avant, a beaucoup plus besoin d'argent, c'est-à-dire de pouvoir avoir le droit d'accéder au travail disponible, à l'énergie et aux ressources. Parce qu'il ne faut pas se dire, il ne faut pas attendre qu'il y ait un super-héros et que l'État français, façon Superman, va passer une loi qui d'un coup va magiquement, façon ma sorcière bien-aimée, juste réduire l'économie en deux d'une manière démocratique, dans un esprit de justice sociale, dans le souci de la qualité de vie. Non, la réalité, en fait, c'est que toute transition économique est extrêmement compliquée, demande beaucoup de choix à faire, et donc on retombe ici, en fait, à la nécessité de se retroussier les manches et de prendre des décisions. Et là, je vais en venir à une politique de décroissance qui se passe plutôt au sein des entreprises. Alors, vous avez sûrement entendu parler du mouvement Tangping, lying flat, s'allonger par terre, du mouvement s'allonger par terre en Chine.
Tangping chen de ge bu da. Lei chen you lei hao.
Suite au manifeste publié en juin 2021, un manifeste anonyme qui appelle justement aux jeunes chinois à refuser cette espèce d'idéal productiviste de travailler 6 jours sur 7 pour avoir un gros salaire, cette espèce d'imaginaire du progrès, on l'abandonne.
I fucking quit.
Aux États-Unis, on parlait du big quit. The Great Demission.
I'm quitting my job.
Après la pandémie, où en fait les jeunes diplômés, bah, voyaient plus trop l'intérêt de trimer 60 heures dans des entreprises où ils étaient coincés dans des bullshit jobs, comme les appelle l'anthropologue David Graeber.
En France, nous, on a les appels à déserter.
Désertons avant d'être coincés par des obligations financières.
Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
On ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
Vous pouvez bifurquer maintenant.
Il est urgent d'entamer un virage radical, de sortir des rails sur lesquels nous installent insidieusement notre diplôme et notre réseau.
À vous de trouver vos manières de bifurquer.
Et donc là, on a quelque chose de très intéressant, une politique de décroissance très culturelle où en fait les gens se disent « Moi, j'ai plus envie de donner mes heures au capitalisme. » La seule chose que ce système à bout de souffle a à nous offrir, c'est des hauts salaires et même ça, ça suffit plus. Et encore une fois, ici, déserter les gens, ils ne s'allongent pas par terre et ne font plus rien. C'est des gens qui disent « Moi, mes compétences, mes heures de travail, mon innovation, j'ai envie de la donner à des projets que j'ai envie de voir grandir. »
Les remises de diplômes 2022 ont effectivement été marquées en France par des appels à déserter le système qui ont fait polémique. Personnellement, peu m'importe qu'ils soient portés par des enfants gâtés, ayant l'assise financière pour se permettre d'aller ne pas gagner leur vie comme apiculteur bio dans une ZAD. Parce qu'à mon époque, un tel discours était littéralement inconcevable. À l'heure de la bulle Internet et des balbutiements du e-commerce, il n'était même pas possible de questionner la pertinence du système, et encore moins l'intérêt de la croissance. Alors, à titre personnel, je trouve donc ça plutôt très rassurant que le modèle puisse être remis en cause, même si c'est maladroitement, au sein des écoles qui fournissent depuis des décennies les bras du capitalisme. Reste quand même une question. Si tout le monde démissionne, qui conduira le train qui m'emmène en Bretagne ? Qui fabriquera le pain que j'achète tous les jours ? Qui viendra constater et indemniser mon dégât des eaux ? La grande démission a le côté tentant et poétique des utopies. Mais elle ne peut pas être la réponse à la transformation de l'économie.
Moi, je suis assez sceptique de la stratégie qui consisterait à dire « Oui, ben, moi, je reste et je travaille dans cette grande entreprise parce que si je pars, voilà, je suis un petit peu le dernier écolo de toute manière. Et ben, après, il n'y en aura plus. » Le problème, c'est l'existence de la grande entreprise dès le départ. Donc, c'est là où on connecte avec des changements structurels beaucoup plus importants, le démantèlement des grandes entreprises. L'existence même d'une grande entreprise n'a pas de sens. Une chaîne de restaurants, une marque de basket ou une entreprise qui fabrique des ordinateurs ne devrait pas avoir le pouvoir qu'elle a aujourd'hui.
Oh, alors là, Timothée, tu vas un peu loin quand même. Bon, ok, les grandes entreprises ne devraient pas avoir le pouvoir de résistance qu'elles ont aujourd'hui. Le pouvoir de mépriser les droits humains et l'environnement pour maximiser leurs profits, par exemple. Mais de là à dire qu'il faut les démanteler, je trouve que c'est simplificateur. Bon, déjà, je crois que l'une des difficultés réside dans la dilution des responsabilités au sein de ces grosses organisations. De quoi chaque individu est-il directement responsable ? Eh bien, pas de grand-chose, en fait, d'atteindre des objectifs, qui peuvent être de production, de rentabilité, de recrutement, de vente. Mais à qui faire porter la responsabilité précise des décisions qui conduisent les entreprises à maximiser leurs profits au mépris de l'environnement ? Aux actionnaires ? Bon, ils ont bon dos. Les petits porteurs n'ont pas beaucoup d'influence. Bon, les actionnaires institutionnels, alors ? Les banques, par exemple ? Les fonds d'investissement ? Mais chez eux aussi, les objectifs ne sont jamais définis avec une telle transparence. On ne va pas écrire « Votre objectif est de maximiser la rentabilité, y compris en trichant avec la loi ». C'est parfois implicite, d'accord, mais c'est jamais écrit noir sur blanc. Il est donc très facile de ne pas se sentir responsable des décisions qui sont prises. Donc, plutôt que l'existence des entreprises, je crois que l'une des sources du problème est là. Et puis, par ailleurs, il me semble que Timothée balaye un peu trop facilement la force de frappe de ces grandes entreprises. Elles existent, elles ont des ressources financières et humaines, elles ont de l'intelligence collective, plutôt que de les démanteler. L'enjeu n'est-il pas d'orienter et de canaliser leur puissance en direction de la transition écologique ? Une multinationale comme Total, est-ce qu'elle n'a pas plus d'impact potentiel sur la modification du mix énergétique que la start-up de 10 personnes qui fabrique des tables de mixage alimentées à l'énergie solaire ? Mais cette affirmation de Timothée a le mérite d'ouvrir le débat sur le rôle qu'elle devrait jouer dans la transformation de notre modèle, qui est aussi, et sans doute même d'abord, la transformation du leur.
Ça, c'est un grand paradoxe du capitalisme, que le capitalisme est érigé comme le système le plus innovant où chaque année, on va avoir un nouvel iPhone. C'est la loi de Moore. C'est vraiment le progrès exponentiel interminable. Mais à partir du moment où vous proposez « Oui, bonjour, moi j'ai inventé un nouveau système économique. Ah, sale communiste !» Le système est innovant, mais la seule chose qu'il ne peut pas innover, c'est lui-même. Donc moi, j'ai tendance à penser justement qu'une transition de décroissance aujourd'hui dans les pays à haut revenu, c'est non seulement quelque chose qui nous est imposé par la situation écologique, ça déjà, il n'y a pas de question, c'est soit la décroissance de manière coordonnée aujourd'hui, démocratique, délibérée, sereine et le plus joyeux possible, soit l'effondrement.
Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr.
Eh ben nous, ça sera un futur de pandémie, de canicule et de conflits géopolitiques autour des ressources rares.
Charmant tableau et totalement plausible. On l'a vu cet été avec la canicule et des journées entières à 41 degrés en Bretagne. On le voit avec le Covid et l'inédite variole du singe. On le voit avec le manque de gaz. On revient donc à la question que posait Florian Fizène dans l'épisode précédent. Voulons-nous subir le changement ou le piloter ?
Mais moi j'apprécie hein, qu'on commence à parler de planification écologique parce qu'on se rend compte qu'une économie capitaliste obsédée par le PIB, les profits et le pouvoir d'achat ne va pas décroître toute seule. Donc oui, si on veut s'adapter à des budgets écologiques limités, il va falloir planifier nous-mêmes. Première étape. Ensuite, moi j'ai une théorie du changement que je compare à cette scène, vous savez, dans 127 heures, ce film où Aaron Ralston, ce randonneur américain, se retrouve coincé dans un canyon de l'Utah, le bras coincé sous un rocher lourd. Et à la fin, bon voilà, spoiler alert, hein, il doit se couper le bras avec un couteau suisse pour pouvoir se libérer. Et ben, c'est exactement notre situation aujourd'hui. Toutes les initiatives qu'on voudrait pouvoir voir grandir, les coopératives à but non lucratif, les monnaies locales, les AMAP, les réseaux de réciprocité, toutes ces choses-là, en fait, se retrouvent un petit peu coincées sur le rocher d'un capitalisme avec des multinationales super puissantes et un intérêt déguisé, voilà, des plus riches qui arrivent à bloquer, en fait, l'accès à l'énergie, au temps disponible et aux matériaux. Donc, en fait, il faut qu'on ait l'État, c'est le seul acteur aujourd'hui qui peut soulever le rocher.
En théorie, oui, l'État peut soulever le rocher. Mais pas tout seul, et encore faut-il qu'il le veuille. Est-ce qu'avec le gouvernement actuel, dont la première loi porte sur le pouvoir d'achat, et avec un ministre de l'écologie ravalé au 10e rang protocolaire, que nous soulèverons ce rocher ?
Et si vraiment on va dans le mur, il faut qu'on développe des plans B, des plans C, des plans D.
Je t'aurais bien dépanné, mais j'ai pas de plan. Je t'aurais bien dépassé, mais je suis déjà devant. Je t'aurais bien dépanné, mais j'ai pas de plan. Je t'aurais bien dépassé, mais je suis déjà devant.
Mais la décroissance, elle mène vers quoi exactement ? La post-croissance et la décroissance, ici je les mets ensemble, est devenue un espèce de domaine d'imagination qui à la fois essaye de penser sa transition et qui aussi essaye de se rêver une nouvelle destination.
Vers quelle destination notre économie se dirigera-t-elle à l'avenir ? La décroissance est en fait un projet de société qui transforme en profondeur nos façons de prendre nos décisions, nos façons d'orienter nos efforts et nos ressources, et surtout, nos échelles de valeur. Comme le dit Timothée, l'un des intérêts majeurs du concept est son caractère clivant. Il propose un contre-modèle, et cela offre de nouveau un choix idéologique et politique qui avait disparu depuis la chute du communisme. Car la seule contre-idéologie qui émerge, sinon, c'est celle du populisme souverainiste et xénophobe. Et l'histoire nous a déjà montré vers où cette idéologie mortifère pouvait mener. Or, la mode des procès d'intention aux grandes entreprises et aux institutions financières ne fait qu'alimenter cette veine populiste, alors même que leur disparition brutale générerait sans aucun doute le chaos. Car banques et entreprises ne font pas simplement partie de notre modèle socio-économique, ils sont le cœur du modèle. Plutôt que d'en appeler à leur suppression, je préfère penser qu'on peut utiliser leur capacité d'action au bénéfice de la transformation. Suis-je naïf de le croire ? Les prochains épisodes devraient m'aider à trancher la question.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.